L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes en Slovaquie, au cœur de la réserve naturelle de Tchaïtse. Nous sommes le 25 mai 2016 et la montre de notre héros du jour affiche 17h30. Il faut y aller. Justin est un touriste américain un peu particulier. En quelques minutes, alors même que les villageois en contrebas lui ont déconseillé de le faire, il va s'engager sur les pentes menant vers le plateau. En journée, les marcheurs viennent y chercher de l'air frais et cueillir des plantes sauvages rares. Justin, lui, est venu en Slovaquie avec la petite équipe de sa chaîne YouTube. Et ils ne sont pas là par hasard. Sur les hauteurs subsiste depuis des siècles une ruine seigneuriale effrayante, à l'histoire si chargée que même le diable refuse aujourd'hui d'y mettre les pieds. C'est le château de la comtesse Báthory, l'une des tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire. La bâtisse les attend. 17h30, l'heure H de mon récit. Justin est accompagné de ses deux amis d'enfance. Une petite enceinte portative accrochée à l'un des sacs, diffuse en boucle de la musique redneck. De la country un peu sauvage, en somme. Non, ils ont toujours aimé marcher sur ces airs un peu roots, où le banjo est bien souvent branché sur un ampli à distorsion. Un son que les Sex Pistols n'auraient pas renié. La petite troupe marche déjà depuis un bon quart d'heure à bon rythme. L'un des amis, le cadreur, tient une perche et un smartphone qui filme. Entre deux rives de country blues, Justin raconte à ses abonnés l'histoire du fantôme qu'ils viennent débusquer aujourd'hui. Ce fantôme, c'est celui de la comtesse sanglante ou Elizabeth Báthory, tueuse de 650 jeunes femmes qui s'est baignée dans leur sang, les a torturées de sa main et en a mangé certaines. La description est tellement horrible que le cadreur est pris de haut le cœur. Tout le village de Vishnovi en contrebas vit au rythme de cette légende noire. Certains habitants, dont Anna, la femme qui les héberge, les ont regardés avec suspicion lorsqu'ils ont annoncé la raison de leur venue. La petite équipe est habituée à gonfler les histoires, surjouer un peu leur réaction face caméra, afin de susciter de l'audience. Mais ici, dans le cas présent, l'air frais de la fin d'après-midi les terrorise déjà. Leurs jambes deviennent lourdes à chaque augmentation du dénivelé. Ils sont essoufflés, alors que le terrain ne le justifie pas. Et surtout, les oiseaux présents en nombre ont arrêté de chanter. Le soleil, déjà diminué en intensité lumineuse, prêt à fuir pour quelques heures cet endroit maudit depuis des siècles. Deux allées d'arbres et de fleurs colorées, rouges pour la plupart, leur bouchent la vue sur le plateau. Pas de trace encore de cette demeure dont il ne reste rien, si ce n'est quelques ruines volontairement laissées en l'état. D'après Marc, qui fait aussi office de jukebox géant, il faut encore crapahuter 500 mètres avant de pouvoir apercevoir le château. Ils ont l'impression d'être en pleine ascension de l'Everest, de manquer déjà d'oxygène. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit très haut. Rien n'explique une telle transformation de leur état physique. Soyons bien clairs, les jeunes amis proposent du contenu paranormal à leurs abonnés depuis près de 2 ans maintenant. Mais ils trichent souvent, exagèrent toujours. C'est leur fond de commerce, l'inexplicable. Et donc régulièrement, il leur faut un peu rajouter du piquant des situations déjà bien connues du grand public. Aujourd'hui, la terreur qui se lit dans leurs yeux n'est pas feinte. Faire demi-tour ? Certainement pas. L'enjeu est trop important. Ils doivent absolument mener à bien cette vidéo qui va cartonner aux États-Unis. Et de toute façon, ils approchent de la lisière. Justin la distingue au loin. Le souffle court. Il doit plisser les yeux 2 fois avant de distinguer avec précision ce qu'il a pris pour un animal au bord du bois. Mais serait-ce une forme humaine ? Ah ben oui, c'est ça, ouais. Une personne encapuchonnée se tient là, droit devant eux. Poussant son cadreur dans sa direction, il lui enjoint de filmer, vite, avant qu'il ne soit trop tard. Mais ni Marc, ni celui qui filme n'ont vu ce que Justin prétend avoir remarqué. Croyant à une énième plaisanterie de sa part, les deux amis se ravisent vite à la vue de ses yeux exorbités. Il n'a pas menti, Justin. Et la situation devient périlleuse alors que le soleil baisse dans le ciel. Enfin la sortie du bois et enfin les vieilles pierres s'étendent devant leur regard ébahi. Il n'a plus rien d'une demeure médiévale, cet endroit. Un pan de mur encore debout donne sur la vallée. On constate des hauteurs inégales, quelques trous marquant l'emplacement d'anciennes fenêtres et c'est tout. Rien d'impressionnant finalement, se disent les trois amis en s'approchant prudemment. Au sol poussent des fleurs et des plantes qu'ils n'ont jamais vues auparavant. C'est officiellement la raison pour laquelle la zone a été classée réserve naturelle nationale. Pourtant, certains habitants, eux, racontent une autre version. Derrière le plus haut pan de mur dont les pierres s'effritent, Justin remarque une zone mieux conservée. C'est là qu'ils vont filmer. Et il faut faire vite. La nuit arrive et ils ne veulent pas se faire surprendre par les ténèbres. Voilà donc nos trois jeunes gens qui grimpent à main nue le long des pierres pour accéder à une petite plateforme qui soutient l'ensemble. Derrière eux, un mur plein. Il a visiblement été monté là pour boucher une pièce qui est tout juste éclairée à l'intérieur par une fente à peine plus large qu'un plateau repas. Et si c'était... Non, impossible. La vieille logeuse a certifié à Justin que cette pièce n'existait plus. La comtesse sanglante fut emmurée vivante, prisonnière de son propre château, dans une pièce sans fenêtre ni porte, avec juste une fente pour lui passer de l'eau et de la nourriture. Est-il possible qu'elle soit morte là, derrière eux ? Leurs échines, conjointement, se mettent à frissonner de haut en bas. Le cadreur, sans réfléchir, enclenche le bouton « on ». Le soleil, lui, joue à cache-cache derrière les collines alentour. Bientôt, il disparaîtra, n'offrant aucune protection aux jeunes aventuriers. Justin, la voix cassée par l'angoisse, prend une grande inspiration avant de se lancer. Il n'a pas le temps de prononcer un seul mot que derrière lui, un cri déchirant monte des profondeurs. Il y a quelqu'un dans cette pièce qui vient de se mettre à pleurer. Saisis d'effroi, nos trois aventuriers prennent leurs jambes à leur cou. Derrière eux, à travers la fente, s'échappe soudain une odeur putride. Ils entendent parler dans une langue qui leur est complètement inconnue. Il pourrait s'agir d'une femme, d'après ce que Marc perçoit, mais il ne peut rien affirmer avec certitude, tant ils ont fui cette zone à toute vitesse. Marc trébuche, l'enceinte attachée à sa ceinture se brise. Mais peu importe, il faut courir pour sauver sa peau. Justin, lui, essoufflé, est à la traîne. Ses amis sont déjà dans le petit bois qu'il est à peine sorti des ruines. Ils auraient dû écouter cette foutue vieille femme qui les loge lorsqu'elle les a mis en garde. Mais leur curiosité était trop forte et maintenant, un vampire les poursuit. Justin ressent sa présence au travers de tous les pores de sa peau. Il est comme appelé de manière irrésistible vers ces ruines. La voix, elle, chante presque pour le convaincre de revenir. Il doit se faire violence pour ne pas faire demi-tour. Tel un serpent charmé par un fakir, Justin est à deux doigts de craquer. Il ralentit son allure. Il semble presque décidé à retourner là-bas pour la rencontrer, enfin. Mais Marc a senti le coup venir. Revenant sur ses pas, il saisit son ami par le bras et ils disparaissent tous deux dans la nuit naissante. La plainte derrière eux s'est transformée en hurlement. Les enfers viennent de s'abattre sur eux. Vite, chez la logeuse, elle seule sera en mesure de nous raconter l'histoire de cet endroit damné, lance Marc à ses deux camarades. Et les voilà moins d'une heure plus tard, tels des chiots poursuivis par une meute de loups, tambourinant à la porte de la vieille femme qui guettait leur retour à sa fenêtre. La vieille Anna les fait entrer sans dire un mot. sans même une once de surprise. Les trois jeunes gens, absolument terrifiés, sursautant à chaque bruissement produit par la maison, ont les yeux partout. La logeuse leur désigne les chaises de la table et tous, comme des élèves, se retrouvent assis sans rien dire. Et voilà que maintenant, elle a mis sa théière sur le feu. En Slovaquie, le thé doit être bien infusé pour être considéré comme réussi. La vieille femme a tout de même 75 ans de pratique en la matière. Elle remet une bûche dans le feu, s'allume une cigarette qu'elle a tirée de son tablier. Ses petits yeux noirs, comme le jet, fixent les trois abrutis qu'elle a pourtant avertis en début d'après-midi. « Ah, ces amerloques !» pense-t-elle. Sans les quitter du regard, Anna se déplace de quelques mètres et attrape un téléphone digne des années où le communisme régnait encore en maître. Elle compose le numéro de son fils et attend. Deuxième sonnerie, troisième. Ah non, le voilà enfin. Un mot, un seul, est prononcé au téléphone. Vojvojkina, la duchesse. Il va tout de suite comprendre et accourir. Et surtout, c'est le seul de la famille qui parle anglais. Parce que cette fois, elle compte bien mettre des mots sur ce qu'il vient de se passer, Anna. Ah, ils voulaient du sensationnel, ces jeunes gens. Eh bien, ils ne vont pas être déçus. Pas de caméra, pas d'enregistrement, juste ces yeux petits, noirs, perçants, qui iront profondément chercher la terreur au fond de leurs âmes. Et leur apporteront la certitude qu'ils ne sont pas fous. Non. Non, non, ce qu'ils ont vu là-haut est réel. Peu de temps après, le fils d'Anna se présente à la porte. Il embrasse sa mère sur le front et prend place à côté de Justin. Puis, il réclame une cigarette à sa mère. Anna se traîne jusqu'à son fauteuil en tissu élimé qui se trouve au coin du feu. Elle s'adresse à lui. « Alexander, mon chéri, traduis-leur ce que je m'apprête à raconter. » En prenant une grande inspiration, Anna commence son histoire, marquant une pause à chaque fin de phrase. Là, l'accent slave de son fils prend le relais et relate les événements dans la langue de Shakespeare. Justin et les deux autres, déjà choqués et remués comme ils ne l'ont jamais été, paraissent à chaque mot un peu plus stupéfaits, terrorisés. Notre histoire commence en avril 1576, dans un temps reculé où les esprits côtoyaient le monde des vivants, où le poids des légendes était tel qu'elle coexistait avec les mortels. La comtesse Elisabeth Báthory, à peine âgée de 16 ans, est mariée depuis 8 mois à Ferenc Nadojdi. L'homme est un général d'armée, grand, ténébreux, mystérieux, brun et lancé. C'est un aussi bon parti qu'une brute épaisse. Hongrois de naissance, il se bat au service des Habsbourg. Justin se concentre tellement sur les mots de la vieille femme qu'il croit pouvoir voir les gens dont elle cite les noms au travers d'un écran de fumée de plus en plus épais. Cette union, bien accueillie par toutes les parties, est scellée par un somptueux cadeau de mariage offert à la mariée. Le château de Tchaïtse. Et aujourd'hui, la jeune épouse se rend à cheval, s'il vous plaît, au sein de sa nouvelle propriété. Elle passe parmi les arbres que les trois garçons ont longés tout à l'heure et accède au même plateau. Et si vous pensiez qu'un palais des mille et une nuits se dresse devant elle, eh bien vous vous trompez lourdement. Plus personne n'habite ce lieu depuis des années. Des ruines, rien de plus. La jeune comtesse est abasourdie. Ça, un cadeau? Merci Ferenc, tu aurais pu t'abstenir. Mais bon, elle est une jeune fille de bonne famille, précise la vieille. Et donc, elle accepte avec un grand sourire ce joli fardeau. Son mari a de grandes ambitions. Rapidement, il parvient à gravir les échelons. En 1578, alors que la comtesse n'a que 18 ans à peine, il est nommé commandant en chef des armées des Habsbourg. La guerre vient d'éclater contre l'Empire ottoman, une puissance incroyable à cette époque, composée principalement de la Turquie actuelle. À ce moment-là, Justin se garde bien de dire qu'il n'est pas là pour un cours de géographie, mais soit. La vieille femme a complètement disparu derrière la fumée. Seul son tablier d'où elle sort cigarette sur cigarette est encore partiellement visible. Anna continue en précisant que les 10 premières années de ce mariage furent heureuses. Mais ajoute-t-elle aussitôt. Cela n'a pas duré. Durant cette période, son mari part souvent à la guerre, dans des combats qui durent parfois plusieurs années. C'est donc la comtesse qui gère leurs affaires, et qui devrait, selon toute logique, tomber enceinte à chaque fois que son guerrier sanguinaire rentre en permission. Mais la Providence, pendant 10 ans, refuse de lui donner des enfants. Ce n'est qu'en 1585 qu'une première fille voit le jour, puis 2 autres bébés, dont un petit héritier, finissent aussi par naître. Mais, chose assez courante à l'époque, tous deux meurent en bas âge. 2 autres enfants arrivent, un garçon et une fille, et miracle, ils vont passer le cap si difficile de la fragilité enfantine. Le comte et la comtesse ont enfin une véritable famille. Pendant ces 10 années, Tchaïtsé reprend des couleurs, devient une véritable demeure rénovée avec faste et goût. En 1585, alors que son époux est encore à la guerre, la comtesse Élisabeth décide de s'y installer. C'est une femme cultivée, qui maîtrise le grec et le latin à la perfection, sans compter le roumain, le slovaque et l'allemand. À cette époque, elle fait encore le trajet entre plusieurs châteaux, mais en 1593, la longue guerre contre les Turcs éclate. Elle durera plus de 10 ans. Son mari, en qualité de grand chef, est appelé sur le front. La comtesse se résout à s'installer définitivement à Tchaïtsé. L'endroit est stratégiquement placé. Et d'ailleurs, le village en contrebas où les jeunes Américains se trouvent maintenant sera pillé par les Ottomans durant le conflit. Ses habitants y seront massacrés. La vieille Anna marque une pause. Elle prie. Et lorsqu'elle reprend, sa voix a changé. La comtesse Báthory n'habite plus avec son mari, qu'on appelle alors le chevalier noir. Cruel, les sévices qu'il fait subir aux prisonniers de guerre ou à ses hommes sont connus dans tout le pays. Dans de longues lettres, il échange avec sa femme sur les bienfaits de cette violence aveugle. Et celle qui était il y a peu encore considérée comme l'une des plus belles femmes d'Europe semble comme lui arriver à cette évidence. La barbarie est la seule option pour accéder à la forme ultime de vie qu'elle souhaite obtenir. Voilà ce qu'il lui faut pour garder sa beauté intacte, l'immortalité. Déjà au village, des rumeurs bruissent. Des jeunes gens, surtout des filles, montent au château, parfois en tant qu'élèves d'une école de bonne manière dirigée par la comtesse, puis disparaissent. Les familles s'inquiètent, tentent en vain de joindre la forteresse. Personne ne semble jamais sortir de cet endroit mystérieux, pas même la beauté rousse qui gère d'une main de maître les affaires de son mari. Mais que se passe-t-il là-haut, derrière les branches, les ponts-levis et les tentures ? Justine devient blême à la prononciation du mot ponctuant la phrase de la vieille femme, Péclo. Le fils hésite à traduire ce mot. Il regarde sa mère, puis se tourne vers les jeunes Américains en quête de réponse. Enfin, d'une voix caverneuse et ferme, il lâche vers eux le mot impie, les enfers.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H se consacre à l'une des personnalités européennes les plus sombres de l'histoire, celle de la comtesse Báthory, dite la comtesse sanglante. Après que 3 jeunes Américains en quête de sensations fortes se soient sentis pris au piège près des ruines de son château en Slovaquie, ils ont accouru chez leur logeuse, la vieille Anna. Cette dernière, qui habite le village situé au pied des ruines depuis toujours, se décide à tout expliquer aux jeunes incrédules par l'intermédiaire de son fils qui parle anglais. Un cours d'histoire qui prend des allures tout à fait morbides. Anna leur explique comment l'enfer se déchaîne au château et sur les jeunes du village qui disparaissent mystérieusement. Alors que le mari de la comtesse, le chevalier noir, tranche des têtes ottomanes à tout va, elle expérimente la violence brutale et crue dans l'espoir de parvenir à l'immortalité. Les rumeurs, elles, commencent à se répandre et elles ne vont pas tarder à arriver aux oreilles des autorités centrales. Aucun des 3 jeunes Américains n'a touché à sa tasse de thé et elles ont bien entendu refroidi. La vieille Anna sort de son nuage de fumée face à son feu de cheminée et retisse le temps d'un instant le lien avec la réalité. Elle plante ses yeux dans ceux de Justine, vient lui tirer l'oreille et jette le contenu de la tasse en porcelaine dans l'évier juste derrière lui. Puis, se dirigeant vers son fauteuil, elle attrape la théière, la tend à son fils qui remplit de nouveau le contenant. Il prend la liberté de jeter le thé froid des deux autres et de les servir à nouveau. D'un regard approbateur, la vieille réclame la théière. Elle la remet sur le feu, reprend une cigarette et aussitôt disparaît de nouveau derrière son mur épais et presque irréel. Elle peut reprendre le cours de son récit. Les dames de compagnie des geôliers de la prison du château de la comtesse sillonnent rapidement les rues du village et recrutent des jeunes filles pour du travail, pour l'école ou pour la cour de la comtesse suivant leur degré de beauté. Chaque semaine, le même cirque recommence sans que les anciennes recrues ne réapparaissent. Oh, vous avez dit bizarre ? Oui, plutôt, effectivement. Les murmures d'abord deviennent rapidement des affirmations, puis les affirmations des témoignages. Et alors qu'en 1604, son mari meurt, soit de ses blessures, soit assassiné, le doute plane là-dessus, la comtesse Báthory devient la femme la plus puissante du pays. Plus que le roi ? Peut-être bien. Mais devant le nombre grandissant d'accusations portées contre elle, une enquête est lancée à la demande du souverain et elle va révéler l'indicible. En 1602, 2 ans avant la mort de son chevalier noir de mari, une enquête préliminaire a déjà été diligentée. Difficile d'agir avec ce barbare dans les parages. Alors Mathias Ier de Habsbourg joue plus malin. Il envoie des émissaires chargés dans un premier temps de récolter les premiers témoignages. Violence, sorcellerie, actes de barbarie, cannibalisme, tout y passe. L'entièreté du village vit dans une peur panique. Du haut de ses hauteurs, la Báthory apparaît de temps à autre, petit point à l'horizon, les cheveux chassés par le vent. Et puis, par un heureux hasard pour le souverain, son mari meurt. Empoisonné par le souverain lui-même ? Eh bien, rien ne permet de le prouver, mais il est permis d'en douter. Les terres possédées par le couple sont immenses, stratégiques. D'ailleurs, à la mort de l'un de ses cousins, la comtesse se permet de vendre une partie des terres glanées par cet héritage à la couronne, à prix d'or. Il faut dire qu'elles sont particulièrement bien situées, ces terres, le long de la frontière autrichienne. Elles valent donc leur pesant d'or. Mathias Ier s'engage à la payer, mais les finances du royaume sont à sec. Il ne le sait que trop bien. La vieille femme ponctue son récit en disant que la Báthory ne sera jamais payée. Mais alors que les Américains croient voir dans ses explications la possibilité d'un complot visant à faire tomber la comtesse pour récupérer les terres et ne pas payer cette dette, la logeuse poursuit. Et la suite va les surprendre de la pire des manières. Nous sommes le 30 décembre 1610, à l'évocation de cette date. La conteuse entame son 2e paquet de cigarettes. La bouffée qu'elle tire laisse présager le pire pour la suite. Justine est obnubilée par son regard perçant et fixe. Ses deux camarades, eux, sont scotchés à leur siège. L'émissaire de Mathias Ier, transi de froid par un long voyage, est accompagné d'une petite troupe. Ils se présentent tous à la grande porte du domaine de la comtesse Báthory. Sans résistance, les portes s'ouvrent. Les pieds dans la neige fraîche, les hommes pénètrent dans cette enceinte qui semble avoir revêtu un manteau de magie. Les jardins qui s'étalent devant leurs yeux sont enchanteurs en hiver. Des fontaines pourtant gelées par ce temps glacial, des statues, des plantes en tout genre, des arbres fruitiers dépourvus de feuilles et un grand escalier de marbre menant à une immense porte rouge qui permet d'entrer dans le château. Elle est close. Les visiteurs sont accueillis par 2 dames de cour de la comtesse. Cette dernière, de peur de prendre froid, les attend derrière la porte, leur dit-on. Les 2 jeunes filles ont l'air gênées, note l'émissaire dans son rapport. Et soudain, alors qu'ils circulent entre les petits chemins dessinés du jardin, l'horreur, l'insoutenable. Là, sur un banc, presque dévêtu, ils aperçoivent une adolescente portant des marques profondes de sévices, sur le visage, sur les bras, en bas du cou. Un des membres de la délégation se précipite sur elle et la couvre de son manteau. Pour seule réponse, Leur guide se retourne et unanime déclare « Vous ne devriez pas faire ça. » Alors soudain, les portes géantes s'ouvrent. La fumée des cheminées sort comme le feu de la gueule d'un dragon et la comtesse de noir vêtue, les cheveux attachés en chignon haut, les toises du regard du haut de son perron. L'émissaire ayant recouvert la jeune fille, totalement sous l'emprise de ses yeux de feu, reprend son bien. Tous laissent cet enfant, là, dans un froid polaire qui la conduit un peu plus chaque instant vers la mort. Si seulement c'était la seule vision d'horreur dont ils aient été les témoins. La comtesse les accueille avec détachement dans le vestibule. Jamais agréable d'être sous le coup d'une enquête, ça, tout le monde le comprend bien, mais les émissaires du roi ont la nette impression de pénétrer dans la demeure du diable lui-même. Ni les dames de cour, qui sont là, nombreuses, ni la comtesse, ni ses employés, ne semblent surpris par ce qu'ils voient. Ils marchent, les bottes dans une mare de sang. La comtesse enjambe le cadavre d'une jeune fille pour les saluer. Cette dernière s'est vidée de son sang. Et ce qui les attend en arrière-plan n'est en rien plus rassurant. 12 servantes, jeunes et belles comme le jour, agonisent au sol, tout juste frappées d'on ne sait quel maléfice. Elles aussi crachent du sang en cascade, vraisemblablement blessées à mort. Et cette odeur, tout bonnement irrespirable. Un mélange de sang séché, avec les effluves de putréfaction multiple. Voilà ce qu'abrite ce château de l'horreur. Il n'en faut pas plus pour convaincre la délégation qui s'est déplacée jusqu'aux confins de la Slovaquie. La Bathory est une malade de la pire espèce. Il faut l'arrêter. Oui, mais voilà. Mathias Ier est dans une impasse. C'est une noble très influente, la comtesse. Et dans le cas présent, l'arrêter paraît difficile. Elle n'est même pas obligée de comparaître devant la cour. Et elle ne pourra pas être condamnée à mort. Comment la faire tomber alors ? La solution s'impose d'elle-même. Accumuler les témoignages, mettre sous les verrous ses recruteurs, ses domestiques, tous ceux qui, par le simple fait de n'avoir rien dit, sont également coupables de l'horreur qu'ils ont vue de leurs yeux. Et seulement alors, grâce à tous ces éléments, elle sera enfin certainement condamnable. La vieille logeuse sur son fauteuil prend une pause. Mine de rien, remuer ses vieilles histoires réveille ses rhumatismes. Au moment où Anna se relève pour se dégourdir les jambes, un vent soudain et violent se déchaîne dehors. Elle se pose alors à la fenêtre, jette un œil inquiet dans la rue et prie, accompagnée de son fils. Justine, lui, a renversé sa tasse de thé sur la toile cirée.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H parcourt les méandres du pire. Meurtre, bain de sang et cure de jouvence à base de viscères, tout y passe. Cette histoire, aussi particulière que terrifiante, est celle de la comtesse sanglante, Elisabeth Bathory. Du haut de son château en Slovaquie, cette magnifique créature se révèle être un monstre sanguinaire. Alors que les rumeurs vont bon train, une délégation d'enquêteurs est envoyée par le roi afin d'estimer si un procès est nécessaire. Ce que ces hommes vont trouver sur place dépasse l'entendement, et ce, d'autant plus que la Bathory ne cherche même pas à cacher ses méfaits. Le retour à la capitale des envoyés du roi sonne pour elle le glas de toute entreprise meurtrière. Bien que son statut de noble lui permette de ne pas se rendre à la cour de justice, elle est mise en accusation. Mais la comtesse sanglante est-elle vraiment coupable de tout ce qu'on lui impute ? Élément de réponse. La vieille Anna observe le temps se calmer au dehors. Elle attend sagement, selon elle, que les esprits retrouvent leur sérénité avant de reprendre là où elle en était. Le nuage de fumée devant la cheminée s'est dissipé. Justine et ses amis ont l'impression de pouvoir souffler quelque peu, mais au lieu de se rasseoir dans son vieux fauteuil, la vieille femme recommence son récit, le regard rivé vers l'extérieur. Immédiatement, la chape de plomb qui semblait les avoir quittés revient aussitôt se poser sur le toit de la petite maison. cause de sa position sociale très élevée, ni le roi, ni les ambassadeurs qu'il a envoyés ne peuvent se permettre d'arrêter immédiatement la comtesse Élisabeth Báthory. Il décide donc de faire arrêter tous ceux qu'il considère être ses complices. Ses dames de cour, les gardiens de sa prison personnelle, les rabatteurs de jeunes filles, les soldats à son service, tous, sans exception, sont mis sous les verrous. À l'époque, d'autres pratiques existent pour arracher la vérité, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, tous sont torturés de la pire des manières qui soient. Les aveux incriminant leur patronne vont pleuvoir. La comtesse, elle, est prise dans un tourbillon dont elle ne pourra plus s'extraire. Alors qu'elle ne sortait déjà presque plus de sa propriété, ses déplacements deviennent fantomatiques. Dans le village, les murmures deviennent des bruits. Les bruits, eux, des torrents de rumeurs. Les habitants enferment leurs filles, opposant la marque du Seigneur partout sur les murs et sur les portes. Certains vont jusqu'à penser que cette femme est un vampire et se pourvoit en ail et en sel. Les croyances et les mythes prennent la place du réel. Plus personne n'ose sortir en rue. Les jours de marché, les étals sont déserts, et quand cette société agricole travaille au champ, c'est sans un bruit, de peur d'attirer le mauvais œil. Lorsque les soldats royaux sont venus chercher les autres, ceux qui composent la cour macabre de cette femme que personne n'a vue depuis des mois, c'est toute une société qui respire de nouveau. Enfin, voilà que les armées de la foi viennent les délivrer. La malédiction peut-être est terminée et leurs filles ne seront plus les jouets de ces macabres pratiques qui ont lieu là-haut, sur la colline infernale qui abrite le château. Alors oui, qu'on les torture, ces suppôts de Satan, ces bras armés de l'horreur. Les paysans n'en ont cure de ce qu'il peut bien leur arriver. Ils sont, eux, les victimes de cette affaire. Et ce qu'ils réclament ne tient qu'en deux mots, justice et mort. Dehors, le vent se lève de nouveau. Anna, l'œil vif, marque une pause, puis reprend plus calmement. Le roi Matthias Ier, face à ces révélations arrachées sous la torture, décide d'ouvrir un procès qui se tiendra en grande pompe dans la capitale 2 ans après les faits. Entre-temps, la comtesse a été mise en état d'arrestation et placée sous la tutelle de l'ambassadeur principal en charge de l'enquête préalable. Il est donc celui qui gère directement ses affaires, une aubaine pour les caisses royales. Les procès-verbaux des audiences, aujourd'hui toujours conservés sous scellé dans les archives nationales de Hongrie, sont terribles. Tous ses anciens proches témoignent contre elle. Élisabeth Báthory refusera de se rendre au procès, profitant de ses privilèges qui l'y autorisent. La cour est horrifiée par les détails sordides qui sont déballés par ses complices. Sur ordre, les dames de compagnie et le responsable de sa prison ont recruté des jeunes filles en leur promettant soit un travail, soit un rôle de courtisane. Une fois le pas de la porte du château passé, c'est l'enfer qui les attendait. Battues, fouettées à mort, torturées avec des aiguilles, des tenailles, marquées au fer rouge, la comtesse récoltait leur sang pour s'en enduire, le boire et même prendre des bains dedans. Son but ? Devenir immortelle encore et toujours. Concernant le nombre de victimes, personne n'est d'accord. De 36 à 80, en passant par 650, tout y passe. La comtesse est une serial killeuse qui faisait enterrer les corps dans les catacombes du château. Le verdict de la cour ne se fait pas attendre. La mort pour tous, sauf pour Élisabeth Báthory, dont la position empêche toute exécution. Son sort sera bien pire. En attendant, tous ses collaborateurs sont brûlés vifs et leurs cendres jetées aux quatre vents afin que leurs âmes ne puissent pas trouver la paix. S'il est impossible de condamner l'ancienne maîtresse des lieux, on décide de la faire mourir au sein même de son horrible maison. Le roi Matthias Ier ordonne qu'on la place dans une pièce sans fenêtre et qu'on en mure la porte. Seule, une petite fente permettra ensuite aux deux mondes de pouvoir communiquer et à la noble de recevoir son eau et son maigre repas journalier. Triste fin. pour un triste personnage. Durant plus d'un an, sans lumière, sans possibilité de maintenir une hygiène convenable, réalisant toute activité à la lueur de la bougie, la comtesse tourne en rond. Et puis, petit à petit, ses forces finissent par l'abandonner. Alors, en juillet 1614, la mère de 4 enfants rédige son testament. Le 21 août, elle expire. Aucune parcelle de son héritage ne sera laissée à sa descendance. La couronne récupère tout. Son corps, considérablement déformé en raison du manque récurrent de lumière et de l'apparition de multiples maladies, est placé dans un cercueil bien mieux protégé que les autres. On ne sait jamais qui lui prenne l'envie de revenir. Les habitants du village refusent de la voir enterrée parmi eux, et c'est donc dans sa terre natale qu'elle sera inhumée. Plusieurs siècles après son décès, une équipe de chercheurs, curieux de voir ce qu'une autopsie de ses restes pourrait apporter comme réponse, font ouvrir le cercueil. Stupeur ! Son corps ne s'y trouvait plus. Disparu, comme envolé. La vieille Anna conclut ainsi son histoire. Elle se retourne vers ses invités et, avec un sourire sincère, leur conseille de faire attention aux vampires, qu'ils peuvent les suivre pour le restant de leur vie. Parce que d'après elle, c'était ça la solution. La comtesse est un vampire qui continue de hanter la zone. C'est ainsi que, sans un mot, les 3 jeunes Américains quittèrent le pays dès le lendemain pour retourner chez eux. Ils arrêtèrent YouTube et aucun d'entre eux ne parla plus jamais de cette histoire. Alors, fin du suspense ? Pas tout à fait. Tentons maintenant de démêler le vrai du faux. Avant de prendre pour argent comptant le fait que la comtesse Báthory soit la meurtrière la plus sanguinaire de l'histoire, il convient de remarquer que sa chute est une aubaine pour de nombreuses personnes. L'alliance des 2 familles lors de son mariage lui confère une puissance incroyable pour l'époque. 1 an après la mort de son mari, l'un de ses frères décède et lui lègue des terres le long de l'Autriche qu'elle vendra ensuite à la couronne. Cette fameuse dette, est-ce suffisant pour vouloir faire taire la comtesse ? Pas certain. Un autre facteur va lui aussi entrer en ligne de compte. En parallèle, l'un de ses cousins devient prince de Transylvanie. Certaines rumeurs, insistantes, évoquent sa volonté de chasser les Habsbourg de Hongrie afin de les renvoyer en Autriche. Une dette donc, mais aussi un risque de révolte. Pour Matthias Ier, la coupe est pleine. Donc, pourquoi ne pas inventer de toutes pièces une folle histoire de massacre perpétuée par cette femme sans doute trop puissante ? Tout le long du procès, la comtesse écrit des lettres pour clamer son innocence. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on verrait que la torture peut conduire à des aveux forcés. Mais qui croire ? Alors, il est vrai que les lettres échangées entre la comtesse sanglante et son mari, du temps où celui-ci massacrait les Ottomans, font état de sa volonté de violence et de soif de sang. Et soyons clairs, les preuves sont maigres et il semblerait bien que toute cette histoire ne soit qu'une invention à visée politique. Bon, vous êtes déçus ? Je vous propose alors de nous quitter aujourd'hui avec une citation qui peut-être vous permettra de maintenir le doute dans votre esprit. Elle est attribuée à la comtesse Báthory elle-même, qui se serait exclamée à la sortie d'une messe. « Est-ce que j'ai l'air de ressembler à quelqu'un qui en a quelque chose à faire de ce que Dieu pense ?» Assurément, il est permis d'en douter. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.